Passagem de Nível, com Arthur Silva.
Bonjour à toutes et à tous, à Passagem de Nível, ce dimanche 22 février jusqu'à 14h. Et le thème principal, ça va être les municipales en France, 15 et 22 mars 2026. Et dans le studio, on va avoir deux candidats à la mairie de Champigny-sur-Marne, Julien Léger, et également Laurent Jeanne. On parlera également d'un concours, scolaire lancé, comme c'est tous les ans, c'est l'habitude, par RDE-PVA. Et on parlera également du festival du film portugais Olá, Paris, ni plus ni moins, qui va avoir lieu à Paris, justement, entre le 6 et le 9. Julien Léger, avant tout, bonjour et merci d'être parmi nous.
Bonjour et merci de votre invitation.
Alors, vous êtes candidat tête de la liste, j'espère bien pas dire de bêtises, la liste gauche unie, sauf la France insoumise, et c'est Agir pour Champigny. Concrètement, le rassemblement des forces citoyennes de la gauche et des écologistes, ça n'a pas été facile, non?
Écoutez, après les législatives, vous savez où j'étais candidat pour le nouveau Front Populaire.
Tout à fait. Et à Champigny, vous étiez largement en tête.
Voilà, avec le côté très majoritaire, a fait que on a quand même pu associer énormément de citoyens. D'abord dans un comité citoyen regroupant des centaines de personnes de tous les quartiers, c'est-à-dire des gens pas organisés dans les partis, mais qui avaient envie qu'il y ait du changement. Ils nous disaient, on veut le changement à Champigny. Et puis ensuite, les forces de gauche se sont dit, avec Julien Léger qui a été candidat, avec ses résultats et cette dynamique citoyenne, on peut s'allier parce que on est dans un cadre respectueux. Alors on va produire ensemble un beau programme, une belle union. Et là, je crois que l'ensemble des forces qui composent notre union est très fier et très heureux de travailler ensemble.
Alors, vous êtes vraiment Champigny, vous y êtes né, c'est vrai?
Je suis né à Champigny, voilà, j'ai 46 ans et j'ai jamais voulu partir de ma ville, c'est ma ville. J'y ai ma famille, mes amis.
Et vous avez été élu entre 2008 et 2014. Bon, c'est 6 ans, un mandat, et maintenant vous avez envie à nouveau de reprendre le flambeau, c'est le cas de le dire?
C'est un peu ça. Dominique Anneau m'avait demandé d'être sur sa liste en 2008, et j'ai beaucoup appris avec Dominique Anneau, avec Christian Favet, avec des grands élus qui m'ont beaucoup inspiré. Mmh. Et aussi Jean-Louis Bargerot, bien sûr, à qui je pense et qui m'a donné beaucoup de conseils. Et du coup, voilà, après une petite pause pour pouvoir m'occuper un peu de ma famille et de mon jeune fils qui venait de naître, j'ai souhaité revenir pour être utile à ma ville, que je voyais qu'elle s'enfonçait quelque part avec le bilan de la droite macroniste qui est au pouvoir actuellement.
Alors Dominique Adenau, à propos, bon, feu Dominique Adenau, il est venu ici plusieurs fois. Voilà.
On pense
alors,
à lui.
Alors, donc vos propositions, avant d'arriver aux propositions, votre édito, vous dites à Champigny, service public et les politiques solidarité ont été fortement réduites, faisant payer davantage les campinoises, instauration d'un stationnement payant, disparition des places en cash. Je pourrais continuer comme ça. Bon, c'est vraiment un bilan au vitriol que vous faites des 6 ans de gestion de Monsieur Laurent Jeanne.
Oui, Monsieur Laurent Jeanne, nous on le compare beaucoup à Emmanuel Macron. Pour nous, c'est comme un Macron local, c'est-à-dire qu'il a appliqué à la fois les méthodes autoritaires d'Emmanuel Macron, le 49-3 campinois, on a vécu ça, sur tous les sujets, sur tous les grands sujets, il a demandé l'avis de personne et décidé seul. Et le fond de sa politique, à chaque fois qu'on l'analyse, c'est toujours moins d'argent finalement pour tout ce qui est la solidarité, les services publics, ce qui profite à tous, et toujours de l'argent mobilisé avant tout pour des projets qui ne satisfassent pas la majorité des gens. Donc, par exemple, quand il a le choix entre reconstruire un peu de logements intermédiaires, un peu de logements publics pour qu'on réponde aux demandeurs de logements qui sont nombreux, ben lui préfère construire et faire construire par les promoteurs des logements qui sont 850 000 euros un appartement sur la place du marché. Les campinois regardent ça avec des grands yeux.
Ça concerne le logement social. Champigny dépasse largement la loi SRU. Alors, quand on parle des projets, un projet, ça suppose investir. Alors, vous savez très bien que le gouvernement a fait des coupes sombres dans les dotations aux collectivités territoriales. En sachant tout ça, comment est-ce que vous allez financer certains de propositions? On va essayer de rentrer dans le détail rapidement.
D'abord, il y a des propositions qui peuvent ne pas coûter grand-chose, mais qui sont très symboliques. Il y a des propositions de pouvoir d'achat, par exemple, qu'on peut mettre sur pied. Je pense, par exemple, à celle qu'on veut mettre sur pied parce que la droite départementale a supprimé la carte améthyste qui aidait nos personnes âgées, nos personnes dépendantes, handicapées à se déplacer. Et donc, comme je sais que les Campinois sont très malheureux de cette situation, je mettrai sur pied avec mon équipe une navette à la demande gratuite, comme ça existe par exemple à Fontenay-sous-Bois. Et les coûts de fonctionnement d'un équipement comme celui-là ou d'un service comme celui-là, c'est pas énorme. Par contre, ça procure des grands services et ça montre à tout le monde qu'on laisse personne à l'abandon. Je pense à une autre mesure pour finir, je veux pas vous prendre trop longtemps. Nous créerons une mutuelle et une assurance habitation communale. Le principe est celui-là. Nous négocions avec des groupes des tarifs parce que nous avons beaucoup de contrats et nous faisons profiter ensuite aux Campinois des prix réduits pour ces dépenses qui sont des dépenses obligatoires.
Alors, parlons des services publics, notamment des éducations, parce que si ma mémoire est bonne, il y a eu des écoles qui ont fermé. Alors, parlons rapidement, je m'excuse, mais il y a les crèches, il y a les maternelles. Souvent, j'ai l'habitude de dire, c'est une réalité, avant de concevoir l'enfant, on l'inscrit déjà à la crèche. Bon, à Champigny, quelle est la situation ?
À Champigny, comme ailleurs, on a à la fois un paradoxe, c'est que dans le Val-de-Marne, on avait le plus grand nombre de crèches, et nous avons le plus grand nombre de crèches départementales de toute la France, et en même temps, il y a une pénurie de solutions, de modes de garde, notamment dans les crèches publiques. Donc il faut l'entendre, là, moi je peux pas prendre la garantie que dans notre mandat, nous pourrons créer un nouvel équipement de type crèche, ça c'est pas faisable pour nous, en tout cas, nous ne l'envisageons pas à ce stade. Cependant, nous essaierons de préserver et d'améliorer, et même d'augmenter, si possible, le nombre de places dans les équipements, et aussi de s'adresser au département, afin que lui remplisse aussi un peu plus les crèches départementales qui sont sur notre territoire. Il y en a qui sont pas totalement remplis. Sur les écoles, nous voulons faire un état des lieux, parce qu'aujourd'hui, nous avons un grand problème, une municipalité qui a lâché l'ambition d'un service public d'éducation de réussite pour tous. Et donc, nous voulons nous investir auprès de l'État un peu plus pour obtenir des solutions. Il faut que les classes soient moins chargées, il faut des AESH pour nos enfants qui sont porteurs de handicap, en situation de handicap. C'est pas possible de laisser les enfants comme ça seuls.
Oui, mais vous savez très bien que ça dépend pas du maire. Le maire, il peut demander, exiger tout ce qu'il veut, mais à la fin, qui décide, ouais, c'est le gouvernement.
On croit encore, nous, à l'action publique, voilà. Et justement, en votant pour ma liste, on vote pour des gens qui sont sincèrement, jusqu'au bout, dans leurs programmes nationaux, comme dans leurs programmes départementaux, régionaux, en cohérence pour défendre le service public. Aujourd'hui, on a un maire qui dit à Champigny qu'il est pour le service public d'éducation, qu'il faut des ESH, pendant que ses amis au Sénat votent contre le statut des ESH et pour la suppression des postes de fonctionnaires. Il faut choisir, il faut être cohérent.
Alors tout à l'heure, vous avez parlé du logement et un de vos engagements, faire de l'accès à un logement digne un droit.
Oui, un logement digne, c'est important. Digne, ouais. Un logement digne, c'est important parce que d'abord, nous devons à la fois construire un peu de logement, je l'ai dit, mais aussi nous devons beaucoup rénover ce qui existe. Et quand je dis nous, encore une fois, la mairie de Champigny ne peut pas seule assurer la rénovation de tout son parc, que ce soit des copropriétés privées comme de publiques. Et donc, quand on voit que l'habitat se dégrade, quand les gens s'en plaignent, il faut que nous inventions une nouvelle relation avec les bailleurs. On veut les recevoir dès le début de notre mandat, contractualiser avec eux une nouvelle méthode un peu plus exigeante de suivi commun. Nous, on mettra plus de moyens dans notre direction de l'habitat. Aujourd'hui, elle est quasiment morte à Champigny. Il faut une direction de l'habitat qui fasse du travail en direction des bailleurs, qui suivent les dossiers. Et on s'adressera aussi à des partenaires. Je vais vous dire une chose. Valérie Pécresse, depuis qu'elle est arrivée à la région Île-de-France, donc la plus riche de France, voire d'Europe, vous le savez, elle a décidé de ne plus financer un seul centime d'euro pour les rénovations de nos résidences, de nos cités.
C'est un grand problème. Au niveau du 94.
Oui, mais c'est un grand problème. Je vous le dis, et on fera pression sur Valérie Pécresse pour qu'elle assume ses responsabilités. Les Campinois payent des impôts qui vont aussi à la région. Pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas recevoir, eux, des aides pour la rénovation de leur résidence ?
Alors, ça concerne la jeunesse. Vous dites l'ambition pour la jeunesse, accès aux droits, santé, stage, autonomie, émancipation. Alors, on sait très bien que des jeunes, on accuse, surtout les mères, parce que c'est des familles monoparentales, et elles partent à 5 heures du matin pour aller travailler, rentrent le soir très tard, les enfants, ils sont dans la rue. Il y a des gens qui proposent des maisons de redressement pour les enfants. Comment faire, justement, parce que Champigny a de la chance, parce que c'est une ville assez jeune, quand même.
C'est une ville jeune, effectivement. La difficulté est que la municipalité n'a pas à elle seule la compétence et de la formation et de l'emploi, donc elle peut accompagner. Elle peut, par exemple, en recréant quelques postes de fonctionnaires qu'aujourd'hui le maire s'évertue à faire baisser le nombre de postes volontairement pour abaisser notre service public, en rouvrant quelques postes,
c'est pour faire des dépenses, pour payer la dette, parce qu'il disait que quand il est arrivé en 2020, la dette a été, à 10 ans maintenant, c'est 3 ans.
Oui, le même argumentaire, de toute façon, que celui au national, c'est pour réduire les déficits, pour réduire les dettes. On fait des choix quand c'est comme ça. On fait des choix. Le choix qui est fait, en tout cas, c'est de supprimer des postes, de geler des postes budgétés. Alors, des jeunes pourraient trouver, comme dans le temps, des débouchés d'emploi dans les services publics locaux. Ça a toujours été comme ça à Champigny. On a eu des jeunes qui ont fait des carrières, qui ont été heureux d'être embauchés par leur ville. Ça ne va pas régler toute la situation. Il faut que, moi, dès le début de mon mandat, je réunisse régulièrement, une fois par an, tous les acteurs économiques pour une sorte de plan, on va dire, un peu global, de dire maintenant, notre ville, elle doit faire mieux sur l'emploi, faire mieux sur la formation. La mairie, par exemple, peut peut-être aider un peu plus les jeunes sur leur stage, quand ils ont besoin de stage pour finir leurs études. On peut être une force qui mobilise des acteurs, qui redynamise. Je crois qu'on peut faire beaucoup mieux qu'un forum pour l'emploi qui a lieu aujourd'hui une fois par an environ par la municipalité. C'est beaucoup de communication, c'est pas vraiment de l'accompagnement efficace pour nos jeunes.
Et en même temps, il faut accompagner les jeunes qui sortent de l'école, se retrouvent tout seuls et peut-être avoir une aide scolaire, quelque chose comme ça, de prolonger même les horaires. Alors, pour une ville profondément démocratique, pour une ville solidaire et inclusive, on pouvait passer une heure sur ces thèmes-là, mais qu'est-ce que cela veut dire ?
Alors, il y a beaucoup de sujets. D'abord, démocratique, je l'ai dit. Pendant 6 ans, nous avons vécu une absence de démocratie locale complète. Le maire a considéré qu'avec le résultat qu'il avait obtenu aux élections, dans un contexte Covid, d'abstention massive, c'est pour tous les maires la même chose, je ne le dis pas que pour lui. Cependant, lui n'a pas été particulièrement humble vis-à-vis de ce résultat. Il aurait pu se dire... Dans ce contexte, je vais beaucoup consulter, beaucoup écouter, y compris l'opposition. Il a fait un autre choix. Et donc, les habitants, sur l'ensemble des grands projets de la ville, ont toujours eu le sentiment, et c'est pas qu'un sentiment, de ne pas être écoutés. Donc, aujourd'hui, quand on dit qu'on va remettre une ville démocratique, ça veut dire que on va prendre l'engagement qu'aucune décision majeure des grands projets ne sera faite sans concertation. On va refonder les conseils de quartier pour cela, pour qu'ils aient vraiment une plus de démocratie. Et puis, on va faire quelque chose aussi qui est important. On va créer une charte d'indépendance pour protéger les associations et mettre fin à une certaine forme de chantage à la subvention, à l'attribution des salles, parce que cette dérive-là, elle a été mal vécue par les associations de notre ville. Avec nous, c'est un peu plus d'éthique, de transparence, de démocratie. Sur l'inclusion, j'aurais beaucoup à vous dire aussi, vous l'avez dit, mais j'ai un peu dit, dans le cadre de l'école.
Non, mais de toute façon, le programme, c'est impossible de détailler le programme. Voilà. Donc, il y a les réseaux sociaux, il y a aussi le tractage les dimanches, le samedi, etc., semaine. Donc, on peut s'en renseigner. Je sais, Champigny, par exemple, ils ont perdu pas mal d'emplois. Là, maintenant, je pense comme ça à Air Liquide, un exemple, et qui était au bord de la Marne. Donc, une ville qui n'a pas un tissu commercial qui permet, parce que ça fait des rentrées de l'argent, comment développer ce secteur-là, à commencer par défendre le petit commerce, surtout en centre-ville, qu'on parle de petit commerce, commerce de bouche et autres.
Oui, effectivement, on a vécu avec beaucoup d'amertume le projet de départ de Air Liquide. Nous avons tout de suite organisé pour notre part, en lien avec les salariés d'Air Liquide, en lien avec des syndicats, en lien avec des associations citoyennes, on a organisé une mobilisation pour faire pression sur la direction d'Air Liquide, pour essayer de mobiliser le gouvernement. Nos députés, nos sénateurs communistes ont écrit au gouvernement pour le solliciter, pour trouver une solution, etc. On a eu l'impression que le maire, lui, après quelques courriers bien tardifs, alors qu'il avait connaissance du dossier depuis bien longtemps, a fait quelques courriers, histoire de faire quelque chose, mais n'a pas vraiment pesé dans ce dossier. Donc, au bout du bout, comme vous le dites, nous avons perdu un grand emploi, un fleuron qui était symbolique de Champigny. Mais vous l'avez dit aussi, la question ne se résume pas à Air Liquide. Il faudra trouver effectivement un autre preneur, un autre débouché pour ce site. Mais c'est surtout en centre-ville, vous l'avez dit, pour le petit commerce qu'on est inquiet aujourd'hui. Le projet de centre-ville du maire devait normalement redynamiser toute la zone. Et ce que les petits commerçants nous disent, c'est en mettant un stationnement payant extrêmement prohibitif. 3,35 € pour le stationnement en centre-ville aujourd'hui, beaucoup plus cher que dans la capitale de la France. Les commerçants nous disent, aujourd'hui, nous ne pouvons pas aujourd'hui, continuer comme ça, nous avons perdu du pouvoir nous avons perdu des clients. Et aujourd'hui, le centre-ville n'est pas attractif pour tous les Campinois. Ils vont installer, bien sûr, un grand magasin qui s'appelle Grand Frère. On a un Monoprix client flambant neuf qui vient d'arriver. Tout cela est pourquoi pas. C'est pas, on le critique pas spécialement. Cependant, le petit commerce doit être quand même protégé.
Oui, et le centre commercial n'est pas très loin, Ormesson, un petit peu plus haut. Mmh. Rue des Monuments, et on y est, c'est dans la 4 qu'on voit. Mmh. Alors, quelque chose de très important, vous dites, vous défendez animer tous les quartiers de notre ville. Mmh. Eh bien, pour moi, ça c'est quelque chose, ça passe aussi pour soutenir la vie associative, parce que finalement, c'est le lien social tout ça.
Oui, dans tous les quartiers, on veut recréer du lien social et du dynamisme. En fait, on veut avoir un concept de cœur de quartier. Le maire s'est occupé principalement du centre-ville. Ça a été sa vitrine de communication politique pendant tout son mandat. Et les habitants des autres quartiers nous disent, pendant ce temps, on a l'impression que pour nous, il se passe pas grand-chose. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt du côté de la propreté, du cadre de vie ou de la vie locale. Alors, notre projet, c'est par exemple de dire, mettons dans tous les quartiers l'équivalent de ce qui s'appelle les maisons pour tous. Bien sûr, pas les grandes maisons pour tous qu'on a dans nos grands quartiers, mais des petites maisons de l'habitant où des projets peuvent se faire entre les associations, les habitants, intergénérationnels. On veut aussi essayer d'implanter, et on le fera, des distributeurs automatiques de billets. Ça paraît peut-être anecdotique.
Ça paraît anecdotique,
mais dans beaucoup de quartiers, ils disparaissent. On en implantera parce que la mairie a des possibilités de le faire. Certains ont fait ce choix comme à bon oeil. Mais nous inspirons de cela pour le faire. Mmh. Et également, pour terminer, si je peux me permettre, puisque vous avez parlé de la vie dans les quartiers, c'est aussi effectivement remettre par exemple des marchés dans des endroits où il y en a plus, redynamiser les marchés. Au quartier des Mordacs, on nous réclame qu'on puisse installer un marché. Et cette revendication des habitants, j'ai envie de l'entendre, et je pense que nous serons en capacité de mettre un jour au minimum hebdomadaire de marché au Mordac. Mmh. C'est important.
Alors, je me rappelle quand il y a eu les émeutes, les révoltes dans le banlieue, Champigny n'a pas été épargné, et vous défendez une ville plus sûre et plus apaisée. Ça passe par la police municipale, ça va passer par où ?
D'abord, on a été pas épargné, mais quand même parfois mieux lotis que d'autres, parce que notre tissu associatif
a fonctionné.
Fonctionne. Et effectivement, sur la sécurité, de manière générale, je voudrais prendre ce sujet avec beaucoup de sérieux, loin des polémiques qui ont été organisées par nos adversaires. Nous sommes des gens sérieux. Dominique Anneau, de son temps, avait fait arriver la police à Champigny. Et puis voilà. Donc, pour ce qui nous concerne, en tout cas, nous sommes à la fois pour le maintien de la police municipale. Il n'y a pas de sujet là-dessus, contrairement à ce qu'on lit sur les réseaux sociaux. Mmh. On lui affectera des missions pour qu'elle soit plus efficace, si possible, c'est-à-dire plus en proximité, aux abords des collèges, là où il y a des tensions le soir, auprès des commerçants. Bref, c'est une police de proximité qu'on veut remettre en place. Je suis aussi le seul qui me semble défend dans cette élection l'arrivée d'un deuxième commissariat de police nationale à Champigny, une ville aussi étendue que la nôtre, avec les enjeux qu'on connaît, d'arriver deux gares des Grands Paris qui vont se construire, qui vont aussi modifier beaucoup de choses. Avoir un deuxième commissariat de police pour défendre et surtout s'intéresser aux besoins du bas de Champigny, y compris de Joinville, de Brie, qui n'ont pas non plus de police nationale. Je pense que ça serait totalement pertinent, et nos sénateurs, Monsieur Savoldelli, interviennent en ce moment même auprès de l'État pour obtenir cet équipement un jour.
Alors, quand on parle d'équipement, je pense au sport immédiatement, parce qu'il y a eu tout un tas de champions du monde olympique qui ont fait leurs premières armes, je ne sais pas si l'expression, à Champigny.
On a une grande tradition de sport populaire, effectivement. Alors, on n'est pas les seuls, mais quand même, Champigny a une pépinière de talent. Vraiment
champion.
De champion, hein, même. On peut aller jusque-là, bien sûr, pas seulement de talent. Oui, donc c'est la preuve que quand on investit dans une discipline, quand on donne sa chance à tous les jeunes pour pouvoir, avec des équipements de proximité et des grands équipements, on a eu quand même dans notre ville... vous le savez, beaucoup de gymnases, on a eu deux piscines, une patinoire, des grands stades, etc. Mais tous ces équipements qui ont besoin aujourd'hui d'être modernisés, par contre, je le dis aussi, on engagera un plan de modernisation de ces équipements parce qu'avec le temps, ils vieillissent. Nous avons eu des résultats et demain, j'ai encore toujours de l'ambition pour que notre ville puisse de nouveau briller. Mais félicitations également à Philippe Sud, par exemple, qui, sur la section judo, a toujours des résultats exceptionnels.
Alors, les candidats, dans votre programme, on a tous les candidats. Et donc, ça veut dire que votre liste est représentative de la multiculturalité de Champigny-sur-Marne. La ville je est... parle de culture, attention.
Oui, mais alors, je ne veux pas m'enfermer là-dessus. Elle est représentative tout court de toute la population de Champigny, que ce soit pour les forces qui la composent, que ce soit pour le dosage, je vous l'ai dit, entre des politiques qui ont plus d'habitude d'en faire et des citoyens qui viennent pour apporter leur pierre à l'édifice sur la base du programme, et effectivement aussi de toutes les cultures, de toutes les origines sociales. Mais bien entendu, nous, notre critère, c'est pas seulement de regarder la couleur des uns et des autres ou son origine. Nous, c'est la compétence et c'est avant tout l'enracinement des gens, là, parce que ceux qui sont sur notre liste représentent toujours quelque chose. C'est soit des gens, des commerçants très connus, soit des syndicalistes très connus, soit des enseignants, des gens de tous les quartiers, des associatifs, je vous l'ai dit. Vraiment, on est très fiers de cette liste.
Alors, il y a aussi un point qui parle d'être une ville solidaire. Et à propos de solidarité, Facebook, hein, vous avez écrit le 7 février. Après les ravages de la tempête Christine, le maire de la ville de Champigny-sur-Marne doit débloquer une aide financière à Alpias, parce qu'Alpias est jumelé avec Champigny-sur-Marne. Mais je sais que vous avez accompagné le travail d'un certain nombre d'associations. Je n'ai pas leur nom ici, mais enfin, donc c'est quelque chose que ça vous a touché, ce qui s'est passé au parti.
Ah, et moi, de toute façon, j'ai une fibre de solidarité internationale, moi, et avec le Portugal en particulier, vu notre histoire. Et donc, effectivement, après le ravage de Christine, dont on a entendu nos amis portugais nous dire toute l'émotion et toute, voilà, là-bas, c'était terrible. On en a pris conscience. Du coup, il nous a semblé important que face au silence du maire, un silence quand même relativement long, hein, parce que je vous dis, j'ai publié le 7 février, mais déjà, c'était déjà depuis un moment hein, que le ravage avait eu lieu. Et donc, il nous a semblé important, effectivement, de lui décrire d'abord à la commune d'Alpiersa pour envoyer un petit message de soutien et d'aider toutes les deux associations qui étaient l'association Amigos Civicos et les Faits Solidaires. Les Faits Solidaires qui ont, j'ai été moi-même participé à leurs collègues pour les soutenir, leur montrer un soutien. Et donc, on a été très bien reçus par les habitants qui nous ont beaucoup remerciés. Et ensuite, on a essayé un peu de pousser, on va dire, la municipalité à faire un geste de solidarité qu'on a obtenu. J'en suis très ravi. On a demandé officiellement un vœu pour pouvoir donner une aide financière. Bon, on aurait aimé qu'elle soit un peu plus supérieure. Mais on a obtenu 2000 euros par la municipalité au dernier conseil municipal grâce à ce qu'on a fait. Donc, je pense que c'est très bien. Voilà, on l'a voté tous ensemble et c'est très bien.
Voilà, donc ce post Facebook est dépassé.
Il est dépassé parce que on a obtenu nos résultats, oui.
Bon, et parce que les associations ont bougé.
Aussi.
Ça, je pense que la base. Julien Léger, on arrive à la fin. Alors, vous êtes PCF.
Oui.
Et vous êtes un candidat à la mairie de Champigny-sur-Marne, tête de la liste de gauche, sauf la France Insoumise, et votre liste c'est Agir Ensemble pour Champigny. Je vais demander un exercice, bon, c'est pas évident, une minute, pour donner une bonne raison de voter Agir Ensemble pour Champigny.
Eh bien, à tous ceux qui veulent le changement, à tous ceux qui pensent que, et dans notre ville comme dans le pays d'ailleurs, les politiques d'alliance de la droite, de macronistes, du maire de Champigny, dont j'ai décrit la finalité, tous ceux qui pensent qu'il faut se débarrasser de cette politique pour essayer de mettre une ville plus démocratique, plus solidaire, plus tournée vers le service public, tous ces gens-là, ils ont une liste qui peut permettre de battre le maire, parce que les listes qui sont parfois isolées ou qui sont des candidatures seules, n'ont aucune chance, en fait, de pouvoir gagner. Bon, pour ceux qui veulent gagner, vous le savez qu'il y a une liste qui est ouverte et qui vous attend le 15 mars et le 22 mars prochain, aux prochaines élections.
Merci, Julien Léger. Ben, on va changer complètement de thème. On va parler de la langue portugaise et du concours au concours scolaire organisé tous les ans par les ADEPPA. Il y a justement un thème bien précis, mais ça, c'est le secrétaire général de l'ADEPPA qui nous va parler de ce thème.
Nós queremos acentuar nessa dimensão internacional, porque línguas há muitas, mas línguas internacionais não há assim tantas. Há o inglês, o espanhol, o francês, depois raras línguas têm esta dimensão internacional. Nós quisemos acentuar nesse aspecto da língua internacional, portanto, falar evidentemente da lusofonia, a DPBA sempre teve essa preocupação com a lusofonia, já desde a sua fundação. E o português é uma língua que tem uma importância internacional é por causa dos países lusófonos, não é só Portugal. Portugal são 10 milhões, portanto é por causa, evidentemente, do Brasil, dos países da África, Angola, Moçambique, etc. Portanto, nós quisemos acentuar essa dimensão internacional. e também o aspecto cultural, porque a língua internacional, o inglês aposta muito na comunicação, mas uma língua não é só para comunicar, também é uma cultura. E, portanto, é um veículo de cultura e nós quisemos que, evidentemente, os alunos trabalhassem sobre os aspectos culturais dos diferentes países lusófonos. Portanto, no fundo, é esta a ideia.
Qual é o objeto do concurso? Bom, não é unicamente relativo a 2026, mas qual é o objeto do concurso concretamente?
Bom, o concurso é para incitar os alunos portanto, a trabalharem sobre a dimensão internacional da língua e é para promover o ensino do português no sistema escolar francês. Sempre foi esse o objetivo desde a fundação da DPBA, que é de promover o ensino do português e promover as culturas dos países lusófonos. Com os concursos que nós lançamos é para motivar os alunos para eles participarem o máximo, para dar um interesse pela língua e nós apelamos também a que os professores façam a divulgação deste concurso e que incitem os alunos a se inscreverem, porque se por detrás de um aluno não estiver um professor o incite, por vezes não se faça nada. Portanto, nós também é uma ajuda para os professores para eles motivar os seus alunos para a aprendizagem do português. No fundo, é este o objetivo do concurso. Os alunos têm até o dia 5 de maio para enviar os trabalhos, portanto, ainda têm muito tempo pela frente e o desejo é que eles se impliquem, que os professores motivem, porque quanto mais trabalhos tivermos, é bom para a promoção do ensino e da língua portuguesa aqui no sistema francês.
Ora, há que referir que os estabelecimentos de ensino vão receber um folheto, mas igualmente um cartaz alusivo a este concurso.
Exato, portanto as escolas já foram informadas não somente pelo site da DPBA, mas também pelos inspectores, e também a coordenação já foi informada, como é óbvio. Agora nós estamos a imprimir e vamos lançar, enviar para cada escola um cartaz e um folheto para os professores poderem fazer, imprimir e explicar o regulamento aos alunos. E também os alunos podem perfeitamente imprimir a partir do site da ADPVA, adpva.fr. Tudo está lá, o regulamento está lá e é importante também, efetivamente, respeitar o regulamento, porque se não respeitarem, esses trabalhos vão ser postos de lado e seria pena. Nós encorajamos os alunos também a fazer trabalhos que sejam originais, dependendo com um pequeno texto, muito bem, se for bem recebido, muito bem, mas nós encorajamos a utilizar tudo o que é, chama-se justiça, quer dizer, fazer um vídeo, fazer um dia por homem, fazer todos esses trabalhos que hoje em dia podem ser feitos. Agora, só algum aviso, todos aqueles trabalhos que forem feitos pela inteligência artificial, evidentemente vão ser postos de lado, porque hoje é o risco também, é cada vez mais recebemos trabalhos que são feitos com a ajuda da inteligência artificial e isso nós não podemos estar a encorajar isso. Evidentemente que pode ser uma ajuda para os candidatos, como é óbvio, se podem fazer pesquisa, etc., mas se nós seguirmos que é um vídeo, que é um desenho feito pela inteligência artificial, isso não pode ser aceito, como é óbvio.
Tânia Oliveira, muito obrigado e eu lembro-o, secretário-geral da ADEPBA. Muito obrigado.
Obrigado e um bom dia para todos. Obrigado.
E agora, vamos ao cinema.
E agora, o que é que queres fazer?
Se inventa o amor, eu invento a solidão.
Voilà Paris 2026, Festival du cinéma portugais, ça va être du 6 au 9. Voilà Paris 17, au Ciné-Club de l'Étoile. Avec nous, on a un des programmateurs et un des directeurs justement de ce festival, Winston Lavelle, avant tout, bonjour.
Bonjour.
Alors, merci d'être avec nous. Alors, en quelques mots, comment est-ce qu'on pourrait présenter les objectifs du festival?
Les objectifs du festival, ce sont toujours les mêmes que lors de la première édition. C'est-à-dire qu'on veut passer sélection du meilleur du cinéma portugais actuel. Cette année, c'est encore plus actuel, je dirais, parce qu'on a, par rapport à la première édition, on a 5 avant-premières. On n'en avait qu'une à la première édition. Donc là, sur les 7 films de la sélection, il y a 5 avant-premières. Donc on est vraiment content de ça. Et puis l'objectif, c'est aussi, bien sûr, d'inviter les équipes des films à venir présenter des films. Et cette année, tous les films auront leur réalisateur ou leur réalisatrice pour venir présenter le film, plus des acteurs, souvent les acteurs principaux des films et les actrices principales d'ailleurs, qui viendront aussi. Donc on a une vingtaine de personnes qui vont venir. Il y aura à chaque film l'équipe du film qui sera là, donc pour parler avec le public en conversation à la fin. Donc ça, on est vraiment très contents. C'est l'ADN du festival.
Du festival, oui. Par rapport au 2024, il y a plein de choses qui ont changé. Dans quel sens?
Les nouvelles choses, c'est que on essaye d'avoir toujours chaque année en fait une sorte de thème. Bon, le thème principal, ça reste le cinéma portugais d'aujourd'hui, ça c'est clair, mais on essaie d'apporter un petit thème. L'année dernière, c'était évident, c'était les 50 ans de la Révolution. Cette année, on va ouvrir une fenêtre au cinéma d'animation. Le cinéma d'animation portugais, il est très réputé dans le monde, il est de très grande qualité, et on le connaît pas assez, bien sûr, on le connaît encore moins que le cinéma tout court. Et pourtant, il y a des films admirables portugais qui font le tour du monde, qui vont aux Oscars, qui ont des prix à Annecy et tout. Donc on va présenter cette année, avant chaque long-métrage, on va présenter un court-métrage d'animation portugais parmi les plus primés. Donc le public va pouvoir découvrir ce qui se fait de mieux au Portugal en matière d'animation. Et en plus de ça, il y aura une masterclass dédiée au cinéma d'animation, donc qui sera présentée par Regina Pso, qui est une grande réalisatrice de cinéma d'animation portugaise, et qui sera là donc le samedi matin pour faire une masterclass sur son processus de création. Voilà, et elle passera aussi 4 de ses films pendant la masterclass. Et nous aurons c'est l'occasion pour nous d'inviter des étudiants en cinéma d'animation de certaines écoles de Paris, les Gobelins, l'Atelier de Sèvres, qui viendront assister à cette masterclass et qui auront même la possibilité ensuite d'échanger et de poser des questions à Regina Pso. Voilà, donc il y a cette petite fenêtre sur le cinéma d'animation. Et on a aussi une nouveauté, c'est qu'on a créé une nouvelle séance qui sera maintenant récurrente. Hein. Tous les ans, on aura la séance extravagante, c'est-à-dire qu'on va choisir un film portugais, un film qui est un peu différent, original, un peu fou. Enfin, on s'est rendu compte en fait que dans le cinéma portugais, il y a souvent des films comme ça qui sortent, qui sont un peu des ovnis, qui ressemblent à aucun autre, qui ont un style très particulier. Et on essaiera chaque année de présenter un film comme ça. Et cette année, on va présenter un film qui est très connu au Portugal, qui s'appelle Prazer Camaradas, de José Filipe Costa, qui est un film un peu très inventif, avec beaucoup d'humour. On ne sait pas trop si c'est de la fiction, du documentaire. Ça parle de l'après-révolution des œillets aussi. Et José Filipe Costa sera là, bien sûr, pour présenter le film à la fin. Et on organisera un débat spécial sur ce film-là à l'issue de la production, et qui fera d'ailleurs la clôture du festival. Voilà.
Il y a quelque chose de très important, parce qu'il y a un certain nombre de réalisateurs dits « établis ». Entre guillemets, oui. Bon, je parle de Pedro Costa, Jean-Pedro Rodrigues, ou encore Miguel Gomes, mais justement, dans le festival Hola Paris, il y a une ouverture à une nouvelle génération de cinéastes, et ça, c'est très important.
C'est vraiment ce qu'on veut faire, parce que nous, ce qu'on veut présenter, c'est la génération actuelle. Alors, la génération actuelle, bien sûr, il y a, comme vous l'avez mentionné vous-même, il y a des réalisateurs très connus comme Miguel Gomes, Jean-Pedro Rodrigues, Costa, et je dirais même que José Filipe Costa, dont je viens de parler, et puis Sergio Trefo, qui sera là aussi, font partie de cette génération de réalisateurs qui sont en place depuis déjà 20 ans quasiment. Mais on veut mélanger à tout ça de jeunes réalisateurs qui sont moins connus. Certains en sont, ça va être leur premier long métrage qui va être diffusé, d'autres le deuxième à peine. Donc c'est des réalisateurs qui sont moins connus, mais qui sont justement en train de monter et de devenir cette nouvelle génération du cinéma portugais, qui est très intéressante parce que ils font un cinéma qui est très ancré dans la réalité portugaise, dans la société portugaise. Ils ont des styles assez différents. Il y a de la comédie, il y a du film un peu très sombre, il y a du documentaire. Ils ont des styles assez différents, mais ils représentent tous très très bien la société portugaise. C'est notre avis. Donc vraiment, c'est l'idée aussi, c'est de faire découvrir, je pense, les futurs grands talents du cinéma portugais à Hola Paris. Et nous avons aussi, pour le dernier film dont je parlais de José Filipe Costa, Prazer Camaradas, nous allons faire un débat et on va inviter, avec le réalisateur, on va inviter deux personnalités deux artistes françaises, je dirais même, parce que le débat il va être quand même axé sur la condition de la femme. Sujet très très abordé dans le film de Joseph-Philippe Coste, et on va donc inviter deux actrices françaises à venir discuter de ça aussi avec avec Joseph-Philippe Coste. Alors le but c'est vraiment ça, c'est de créer du lien entre les deux pays qui sont des liens professionnels entre acteurs ou réalisateurs, producteurs ou les protagonistes de la profession, on va dire.
Cette édition 2026 sera également marquée par un partenariat avec Andy Lisboa. Ça vaut la peine de donner quelques explications.
En fait, on s'est rendu compte que Andy Lisboa, le festival portugais de Lisbonne, ils avaient un peu les mêmes, la même ADN que nous par rapport au cinéma, c'est-à-dire que c'est un festival qui montre du cinéma indépendant plutôt. Et nous, c'est pareil, on est un peu dans cette optique-là. On veut montrer un cinéma d'auteur un peu indépendant, un cinéma qui nous paraît très très important et essentiel parce qu'il raconte des choses vraies, quoi, en fait. Il raconte une société, quelque chose. Et Andy Lisboa, ils sont un peu dans cette optique-là aussi. Donc, on les a contactés, ils ont trouvé l'idée très très bonne. Ils nous ont invités, on est allé avec Fernando au festival en mai dernier à Lisbonne. On a rencontré beaucoup de monde là-bas d'ailleurs, des producteurs, des acteurs, des réalisateurs et tout. Et puis ils nous ont aussi conseillé Avida Luminosa, en fait le film qui va faire l'ouverture du festival. C'est un film qui nous a été conseillé et donné par Indie Lisboa, le festival Indie Lisboa. Donc c'est un peu en partenariat avec eux qu'on passe ce film-là qui est passé aussi chez eux au festival. Voilà, donc on va essayer de mettre en place avec eux ce partenariat qui fait qu'on va s'échanger des films les uns les autres d'année en année et comme ça on sera toujours en phase par rapport au cinéma indépendant portugais.
Alors, l'édition 2024, la marraine a été Maria de Medeiros et cette année c'est Beatriz Batarda.
C'est vrai que l'année dernière, la première personne à qui on a pensé quand on a lancé cette idée, c'était Maria de Medeiros, qui nous semblait être l'actrice portugaise la plus française, on va dire, la plus franco-portugaise en tout cas. Et on a eu la chance que Maria de Medeiros accepte tout de suite cette idée d'être la marraine et tout. Donc on était vraiment super contents. Et c'est vrai qu'à l'époque, on s'est dit, mais dis donc, quand on va faire la deuxième édition, ça va être difficile de trouver mieux, quoi, en fait, parce que c'était un peu l'idéal. Et en fait, la première édition est venue Beatriz Batarda qui venait présenter un film et le courant est très très bien passé avec Beatriz Batarda. Elle a beaucoup aimé le festival aussi et on a pensé à elle tout de suite pour lui proposer d'être la marraine de la deuxième édition, chose qu'elle a acceptée tout de suite aussi avec grand plaisir. Donc on est vraiment très très heureux parce que Beatriz Batarda, elle est très impliquée dans le festival, elle est très contente d'être la marraine, elle sera présente dans deux films de la sélection. Et franchement, ça va être une marraine exceptionnelle aussi, Beatriz Batarda. Et puis bon, on la présente même plus. Hein. C'est une des actrices les plus connues du Portugal. Hein.
Beatriz Batarda, antes de mais, muito bom dia.
Bom dia, viva. Obrigada por este convite.
Vai estar connosco aqui em Paris para participar no festival Olá Paris 2026, mas é a madrinha, ora, a madrinha de um festival. Quais são as responsabilidades dela? O que é que ela vai fazer, pode fazer?
É uma boa pergunta. Eu acho que estou a descobrir à medida que vou avançando. Nunca fui madrinha de nenhum festival, já fui madrinha de uma livraria, mas de um festival de cinema nunca me tinha acontecido. O que é um presente, não é? Uma honra, até porque é um festival que ainda tem esta característica a uma escala muito humana, muito familiar, que é uma pequena preciosidade, não é? Porque os festivais de cinema foram ganhando proporções de mercado e foram perdendo essa natureza inicial que era o propósito do encontro e da troca e da partilha da experiência do cinema.
Quando se fala de Paris, está muito ligado, porque houve um certo número de realizadores que passaram por aquilo que se chamava antigamente o IDEC. A maneira que, bom, e aliás, a Beatriz Batarda também fala francês, não fala?
Um petit peu, mais pas tellement. Vou tentando. Ora, já falei melhor. Eu venho de uma família francesa que veio para Portugal ali nos anos 30 e portanto há uma tradição de frequentar a escola francesa aqui de Lisboa e por isso é que eu ainda tenho essa ligação à língua, mas infelizmente não tenho a prática.
Beatriz, boa tarde. É conhecida a nível internacional, não só a nível do cinema, mas também do teatro. Como é que está a ver o cinema português atualmente? Porque chama-se uma nova vaga, bom, nada tem a ver com a nova vaga aqui nos anos 60 e 70 em França, mas enfim, quer dizer...
Nós também tivemos uma nova vaga nessa época. Tivemos uma grande ligação ao cinema francês dessa época e fez que teve uma influência muito grande no cinema português também. Essa Nouvelle Vague. Mas pronto, esta sim é a nova vaga da Nouvelle Vague.
Há uma abertura, há uma nova, como é que diz, uma nova criatividade. Como é que analisa precisamente o trabalho dos realizadores ditos jovens, entre aspas?
Eu acho que tem sido um caminho muito interessante, de facto, desde os anos 60, que foi um momento muito empolgante para o cinema português, com o nascimento de realizadores muito fortes, como o APV, o José Álvaro Moraes, o João César Monteiro, o Paulo Rocha, enfim, sem querer me esquecer de figuras pivotais do cinema dos anos 60 e 70, mas depois houve a descoberta da possibilidade, portanto, havia esse entusiasmo com um cinema francês e a Revolução de 68 e depois colou-se à Revolução de 74, a nossa, e havia uma ligação ao cinema, não diria politizado, mas com um gesto muito, muito político e muito investido num olhar sobre a sociedade. E depois com os anos 80 e os anos 90 começou-se a descobrir outra forma de fazer cinema com uma perspectiva mais de ligação ao público, de atrair um público, porque o nosso cinema não tinha essa tradição, não tem essa tradição de fazer um cinema para público, porque o público como mais comercial foi sempre dominado por um cinema mais americano e anglo-saxónico. E então acho que ali, no final dos anos 90, houve um certo desejo de querer conquistar de uma forma mais comercial, e isso veio abrir portas a outros olhares mais jovens, que são os que eu acho que estão agora a trabalhar, a olhar para o cinema, depois de ultrapassar essa fome, esse desejo de agradar ao público e de seduzir o público, estão a começar agora a encontrar uma linguagem que é uma linguagem de autor, mas talvez não tão hermética como seria numa determinada época em que o cinema era mais literário e menos visual.
Aliás,
isso é muito exciting.
Aliás, isso faz-me pensar aos filmes de Manuel de Oliveira, não? Quando se fala
Sim.
do hermético,
Sim.
teatral e isso
Sim.
tudo.
Era precisamente no Manuel que eu estava a pensar quando disse isso, porque o Manuel tinha essa ligação à literatura e por isso, de certa forma, o cinema dele era como uma extensão da literatura através da imagem, com tempos muito próprios, mais de contemplação, de relação com o estar presente e menos com os acontecimentos ou essa noção de ritmo, do corre-corre da vida contemporânea, não é? que o cinema atual tem.
Beatriz, boa tarde. Há dois filmes que o público aqui vai descobrir ou redescobrir. Quero-me referir 18 Buracos para o Paraíso, de João Nuno Pinto, e Le Vent qui siffle dans les grues, de Jeanne Waltz. No final das projeções, vai estar presente, resumidamente, e para dar vontade de ir a ver esses filmes durante o festival e depois dialogar consigo, resumidamente, como é que podemos apresentar um e o outro filme?
Bom, eu acho que, bem, sim, eu nesses estarei de certeza e espero, na verdade, estar para todas as sessões e poder encontrar as pessoas e discutir também com as outras equipas os filmes que vão sendo apresentados, e há filmes muito interessantes. Eu gostava de destacar o Entroncamento, que também vai estrear nas salas em França, mas depois há outros filmes que não irão estrear e que são verdadeiras pérolas e que eu acho que não se podem perder. Vou destacar aqui o Raiva, do Serge Truffaut, que é um filme fortíssimo, também baseado num livro, tal e qual como O Vento Assobiando nas Gruas, que também é baseado num livro, neste caso da Lídia Jorge, uma escritora portuguesa muito forte, muito importante na nossa literatura contemporânea. E quando eu digo muito forte, é na literatura toda ela, e sem distinção qualquer de género, porque já não tem nada a ver com a literatura feminina ou a literatura masculina. É mesmo um nome importante e incontornável. E é uma pessoa com quem eu já tinha colaborado também indiretamente, claro, no filme A Costa dos Murmúrios, da Margarida Cardoso. Também era baseado num livro da Lídia Jorge, e portanto há assim um entendimento daquele tempo e daquela literatura, que aqui neste filme acontece revisto e reescrito com o olhar da Jeanne Valtz, um tanto tirando partido da distorção e da deslocação da câmara como uma espécie de deformação daquilo que será a realidade. É um filme sobre uma família. Aliás, ambos os filmes, tanto o 18 Buracos como o Vento, são filmes que estão estruturados em cima de famílias disfuncionais. Bom, se calhar todas as famílias são disfuncionais, mas cada uma destas histórias tem uma família com as suas particularidades, sendo o Vento um retrato sobre a dificuldade de desapego de um país, daquilo que são práticas de subjugação e de exploração e de colonialismo. E no outro filme, na verdade, no 18 Buracos, embora seja sobre outros temas, também há traços na família desse filme, de dificuldade de desapego de uma vida ou dos confortos que só eram possíveis numa época em que se exploravam e subjugavam outras camadas sociais.
Beatriz Batarda, muito obrigado, e damos encontro aqui na sexta-feira, dia 6 de março, dia 6 de março em Paris.
Sim, traga um amigo também, porque eu acho que é mesmo uma gema poder desfrutar de um festival de cinema onde as pessoas se encontram para falar do cinema e não para falar do vestido e da passarela e das marcas, enfim. Por isso, venha, está bem?
E agora, o que é que queres fazer?
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Deuxième heure de Passage à Niveau, ce dimanche 22 février. On va rester à Champigny. Tout à l'heure, on a eu Julien Léger du PCF, candidat à la mairie, justement, était la liste de gauche, sauf la France Insoumise, à agir pour Champigny. Et cette fois-ci, on reste à Champigny, mais avec Monsieur le maire. Laurent Jeanne, bonjour et merci d'être avec nous.
Bonjour Arthur.
Alors, Laurent Jeanne, libre, divers droite. Vous êtes maire de Champigny depuis 2020, donc c'est vous qui avez arraché à la gauche une mairie qui était de gauche depuis 75 ans.
De gauche ou de gauche extrême? Communiste depuis 73 ans.
Vers les dernières décennies, il y avait des socialistes, il y avait des radicaux de gauche, etc.
On les entendait pas beaucoup quand même. Hein. C'était quand même très, très, très communiste. Bon, après, c'est une histoire. Hein. C'était la ville de Georges Marchais, tout ça était une histoire importante de la ville de Champigny. Mais je pense qu'il était temps aussi de tourner la page. Et en tout cas, c'est ce que nous ont dit les Campinois en 2020. Ils sentaient que depuis 20 ans, il n'y avait plus grand-chose qui se passait à Champigny. Donc on a redynamisé la ville au cours des 5 dernières années.
On va y revenir. Ça y est, votre liste a été déposée en préfecture, je crois.
Elle est déposée. C'était la première liste déposée en préfecture.
Voilà. Pour Champigny. Parce que j'ai actualisé ça depuis le 14. Le 14 de février, je n'ai pas d'actualisation là-dessus. Alors, vous avez adressé une lettre aux Campinois et Campinoises, et surtout, vous parlez un petit peu de tout ce qui s'est passé. Vous critiquez encore la gestion communiste et vous dites attention, il y a danger. Danger parce que la France insoumise risque d'arriver et par-dessus le marché, les communistes. Bon, Laurent Jean, quand même, ces gens-là, c'est des partis républicains, ils respectent les lois. Donc, aujourd'hui, on bat encore là-dessus. On fait un combat encore par rapport à ce sujet.
Il y a deux sujets, en fait. Il y a à la fois d'expliquer aux Campinois ce que nous avons eu à gérer. Si je reparle de la gestion communiste, c'est parce que on ne raye pas des années de déficit, de manque d'investissement dans une commune pendant plus de 20 ans, en 5 ans. Il faut au moins 2 mandats pour pouvoir remettre la ville en bon ordre. Donc il faut rappeler, parce que vous avez aussi des nouveaux habitants qui viennent de s'installer, qui ne connaissent pas cette histoire-là, donc il faut leur expliquer que tout ne se fait pas comme un coup de baguette magique. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, il y a un véritable danger de la France insoumise. Moi, je ne sais pas si on peut considérer que la France insoumise est un parti républicain, au regard de ce qu'on a pu
Ils sont à l'Assemblée nationale.
Ils n'ont pas été interdits, c'est certain. Mais en tout cas, il y a des positions au niveau de la France insoumise qui posent quand même des questions de la part notamment de certains nombres de parlementaires qui ont eu des propos parfois qu'on peut pleinement considérer comme antisémites. Et puis aussi, regardez ce qui s'est passé à Lyon. Est-ce que nous, on a envie de voir une situation similaire à ce qui s'est passé à Lyon, à Champigny? Moi, ce que les habitants de Champigny me demandent, c'est surtout d'avoir une situation apaisée.
Par rapport à Lyon, attention, parce que si on tient compte du Canard enchaîné, et également de Mediapart, les choses sont pas si évidentes que ça. Il y a eu mort d'homme, ça c'est inadmissible, tout à fait d'accord. Mais attention, c'est-à-dire la justice est en train d'enquêter, mais ça y est, tout le monde a dit, bon, coupable, etc. Bon, mais enfin, passons. De toute façon, ce qui compte, c'est ça que Laurent Jeune défend, c'est un bilan. Bilan, donc, il a fallu contrecarrer 20 ans d'inertie, c'est ça que vous dites. Et alors, commençons par une base. Pour moi, la base, c'est l'éducation, c'est l'école. Les écoles sont notre première priorité en termes d'investissement budgétaire. Concrètement, on parle de quoi? Des crèches, des maternelles, les collèges, parce que les lycées, ça, c'est le département.
Alors, les lycées effectivement sont pas concernés, c'est la région qui s'en occupe, et les collèges, c'est le département.
Pardon, oui.
Nous, par contre, on a deux obligations. La première et la plus importante, c'est bien évidemment les écoles élémentaires et maternelles, les crèches, parce que nous avons 3 crèches, et là aussi, on a trouvé des crèches qui étaient en mauvais état. Quand même, il y avait des plafonds qui menaçaient de tomber sur les petits. Donc, on a remis de l'argent pour réhabiliter véritablement les 3 crèches municipales. Et puis ensuite, on a lancé un grand plan d'urgence sur les écoles. Parce que, à la fois, on avait des écoles qui n'étaient pas en trop mauvais état, mais où les enfants refusaient d'aller aux toilettes parce que les sanitaires n'étaient pas opérationnels. Donc, il a fallu refaire une vingtaine de blocs sanitaires pour que les enfants puissent retourner aux toilettes. Et puis ensuite, on a aussi le fruit de l'histoire, de l'urbanisme de la ville, c'est-à-dire ces grands quartiers qui sont nés dans les années 70. Il a fallu faire des écoles très rapidement, qui étaient des écoles Payron. Et ces écoles Payron, qui étaient des écoles en structure modulaire, avec un risque incendie très fort, on disait c'est des écoles pour 10 ans, le temps de construire l'école en dur.
Et ça fait 40 ou 50
ans. Ça fait 55 ans aujourd'hui qu'elles sont là. Et donc, elles ne devaient pas durer plus de 30 ans. Et elles sont maintenant hors d'âge, c'est des passoires thermiques. Donc, on a entamé un premier plan pour démolir et reconstruire. Donc, la première école, c'est l'école Henri Bassis sur le plateau qui est en cours. On en vient d'en définir une deuxième, on a retenu l'architecte. Et à chaque fois, c'est deux écoles, puisqu'en fait, c'est un groupe scolaire. Donc, il y a à la fois une élémentaire et une maternelle. Donc, on avance sur ce sujet-là. Et en gros, on a un équivalent de 10 écoles à refaire, c'est-à-dire en gros 150 classes. C'est 150 millions d'investissements.
10 sur 36, que je sache, c'est ça?
Alors, c'est 10 écoles sur 36 qui sont complètement
maternelle et
maternelle et élémentaire. Tout à fait. Ouais.
Alors, ça, c'est un cheval de bataille, c'est l'histoire de sécurité. Il y a une police, la police nationale, elle est présente sur le territoire de Champigny. Par rapport, bon, est-ce que normalement les maires sont obligés de créer une police municipale parce que il n'y a pas assez de policiers de la police nationale. Quelle est la situation à Champigny?
Alors, on a un commissariat de plein exercice à Champigny qui est implanté au Bois-l'Abbé, donc qui fonctionne, où on a réussi à obtenir d'ailleurs un bon maintien des effectifs. On a même eu un renfort récemment sur la police judiciaire. Donc, tout cela fonctionne bien et on fonctionne en bon partenariat avec la police nationale. Et moi, j'ai des contacts quasiment quotidiens avec le commissaire. Ça fonctionne très bien. Mais on voyait quand même qu'il y avait des angles morts. Déjà, le premier angle mort, c'est qu'il n'y avait pas du tout de vidéoprotection. Donc, aucune caméra sur Champigny, hormis 4-5 autour de la mairie qui ne servait pas à grand-chose, qui était stockée au niveau d'un placard fin fond de la mairie. Donc, on a mis en place un nouveau projet, qui est maintenant opérationnel depuis un peu plus de 2 ans, qui est une police municipale, avec des locaux prévus pour, un bâtiment qui est un bureau de la police municipale, en centre-ville, puisque le commissariat, lui, est un peu éloigné. Ça nous permet d'avoir une sécurisation et ça anticipe l'arrivée de la gare de Champigny-Centre, puisque la gare de Champigny-Centre, bah, ça va amener beaucoup de flux et donc il y a besoin de sécuriser. Et on a déployé 120 caméras sur l'ensemble de la ville qui sont reliées à ce CSU, gérées par la commune, mais aussi la police nationale peut s'en saisir. Et on a maintenant une vingtaine de policiers municipaux qui sillonnent la commune. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui n'existait pas auparavant.
Laurent Jeanne, cette surveillance, qu'est-ce qu'on fait des images après? Parce qu'il y a quand même le droit à l'image.
Oui, mais il y a un cadre réglementaire. Le cadre réglementaire, il est extrêmement précis en France. On a le droit de conserver les images pendant 30 jours, et après, ça s'efface automatiquement. Donc, il n'y a aucune difficulté. Les seuls qui peuvent être dérangés par le fait qu'il y ait des images, je veux dire, c'est des gens qui ont des choses à se reprocher. Et c'est vrai qu'on le voit d'ailleurs dans les campagnes municipales qui existent actuellement en France. Il y a quand même une collusion. On a vu ce qui se passait à Marseille, mais c'est le cas, hélas, dans beaucoup d'autres villes. Il y a une collusion entre des narcotrafiquants et certains candidats. Donc nous, on est très clair sur ce plan-là, on veut faire une lutte où on accompagne la police nationale, puisque la judiciarisation se fait par la police nationale et pas par la police municipale, mais on y apporte notre concours avec des effectifs sur le terrain, et puis bien évidemment de la vidéoprotection.
Ils sont armés,
bien sûr.
Les policiers municipaux?
Bien sûr, parce qu'on ne peut plus avoir aujourd'hui un policier municipal qui n'est pas armé. C'est une cible aujourd'hui. Ceux qui mettent des policiers municipaux non armés les mettent véritablement en danger. Et d'ailleurs, vous voyez que la gauche a un peu évolué sur ces questions-là, puisque le maire de Bordeaux avait complètement désarmé sa police municipale. 2 ans après, il a fait volte-face et il les a réarmés.
Alors, parlons un petit peu de logement, parce qu'il y a une réorientation de la ville, de centre-ville et pas seulement, donc rénovation, il y a des bâtiments, il y a quand même la construction qui est une réalité à Champigny-sur-Marne, et Champigny qui a dépassé 40% je crois de
45% de logements sociaux.
Donc c'est pas comme certains voisins de Champigny-sur-Marne. Mais justement, comment est-ce que vous voyez pour les 6 prochaines années, d'abord fixer les gens? Et d'autre part, bon, il y a des gens qui sont dans le besoin aujourd'hui, un couple qui travaille, deux salaires, ils n'arrivent pas à se loger. Qu'est-ce qu'un maire peut faire, en sachant qu'on revient à la case de départ, c'est que vous êtes obligé d'avoir un budget dans l'ordre, parce que pas le droit à déficit, et les dotations de l'État, elles continuent à réduire, à être réduites, et les obligations, elles augmentent.
Alors, si on veut être totalement honnête, il faut quand même dire qu'au cours des 2 dernières années, on a, nous, réussi à préserver nos dotations, parce qu'on fait partie des 250 villes les plus pauvres de France. Donc, au moins, de ce point de vue-là, on n'a pas perdu.
Il y a une année, ça n'a pas été comme ça. Hein.
Non, mais là, on a réussi à préserver pendant 2 ans. Je ne sais pas de quoi sera fait le budget pour l'avenir, mais en tout cas, C'est aussi avec une bonne gestion, parce que on avait nécessité d'avoir une bonne gestion. Quand on a repris la ville il y a 5 ans, on était à 9 années et demi d'endettement. Aujourd'hui, on est à 2 ans et demi, ce qui nous redonne des marges de manœuvre pour pouvoir investir. Et ça, c'est un travail de fond. Et on a plus que doublé l'investissement pour faire... les locaux de la police municipale, par exemple, mais aussi des écoles, des équipements sportifs. On a refait un stade comme le stade Léon Dubras, qui était promis depuis 40 ans, qui n'était pas fait. Puis la police municipale, vous savez, c'était quand même une attente extrêmement forte de la population. Alors maintenant, il y a certains candidats qui disent qu'ils sont pas contre, alors que pendant 30 ans, ils ont été contre. Moi, j'entends, mais je regarde aussi ce qui a été fait dans d'autres villes, comme Villejuif, par exemple, où au total, on n'a pas complètement supprimé la police municipale, mais en fait, il reste 6 policiers municipaux, autrement dit, rien, donc ça sert pas à grand-chose. Non, il faut qu'on puisse continuer à investir, donc il faut retrouver des marges de manœuvre financières, et c'est vrai qu'on s'est doté des marges de manœuvre financières pour continuer à investir, parce qu'on veut avancer sur les écoles, on veut avancer sur les équipements sportifs, culturels. On a deux belles médiathèques qui sont en cours, une qui est en cours de travaux et une qui est en phase préparatoire. Donc on a besoin d'avancer. Et puis le logement, il faut du logement pour tous. Et on a déjà 45% de logements sociaux. Et aujourd'hui, un jeune couple qui travaille peut trouver à la fois à travers le logement social, le logement privé, et puis même accéder à la propriété, parce qu'on a la chance d'avoir 5 secteurs, puisqu'on a 5 quartiers en politique de la ville, avec de la TVA 5,5.
Il y a une liste d'attente énorme.
Oui, il y a une liste d'attente. Mais alors,
plusieurs années.
Alors, il faut savoir de quoi est composée cette liste. C'est-à-dire que si on prend la liste actuelle des demandeurs de logement, globalement en Ile-de-France, et à Champigny, on a une liste qui est d'à peu près de 5000 personnes, il y en a 3000 qui demandent pas un logement. Ils demandent juste un échange de logement. Donc il faut aussi que les bailleurs fassent leur rôle, parce que c'est à eux de proposer les mutations, et c'est pas à la ville d'intervenir. Nous, on n'a que 10% en fait de contingent sur l'ensemble des logements sociaux. Donc en réalité, les 70%, c'est la préfecture. C'est la préfecture qui a la main pour pouvoir attribuer le plus possible de logements.
Comme des routes, moi j'ai tendance à le dire, c'est les bureaucrates, bon, le préfet, c'est pas exactement bureaucrate, mais enfin, quand finalement, c'est des gens qui sont sur le terrain, qui connaissent les difficultés des gens.
C'est ce que j'avais demandé au président de la République, de nous redonner 50%. Il y a 2 ans, on avait une rencontre après les émeutes de Nanterre, et je me dis, bon, nous, il serait bien qu'on ait 50%. Soit on ne donne rien, puisqu'on c'est nous qu'on vient voir, et on gère au fond la frustration, soit on nous donne 50%, et on peut répondre à la demande locale. Je suis pas contre qu'il y ait, je demande pas 100%, parce qu'il faut aussi que des gens puissent bouger dans une région. Mais au moins, si on a 50%, on peut répondre véritablement à la demande au sein de la ville.
Et pas de réponse.
Toujours pas de réponse.
Non, c'est comme ça. C'est pas comme ça, c'est une façon de parler. Revitaliser le centre-ville. Moi, je pose une question toute bête, je parle comme citoyen lambda. Des petits commerces. Parce que si j'ai pas de voiture, il faut dire encore avoir un bus qui m'emmène jusqu'au centre commercial. Et ça, c'est très important, c'est que petit à petit, les centres-villes, ils sont devenus vides, ou alors des commerces vraiment, etc. Donc, plus de commerces de bouche. Qu'est-ce que vous arrivez à faire en sachant que, un maire, c'est pas lui qui ouvre un commerce?
Non, et puis il y a un principe qui est très important dans notre pays, qui est la liberté d'installation du commerce. Pour autant, en fonction de l'environnement que l'on crée, on peut attirer le commerce ou pas. Mmh. On a réussi à avoir un très beau magasin Monoprix. Grand Frais vient de se positionner. Ils sont en train de faire les travaux.
Mais non, mais les petits commerçants.
Mais justement, c'est parce qu'il y a des locomotives que les petits commerces viennent autour. Au début du mandat, on avait beaucoup de mal à faire venir les petits commerces parce qu'ils disaient, oui, mais il n'y a pas assez de flux en gros pour que, effectivement, on puisse se positionner. Maintenant qu'on a les deux locomotives plus la super locomotive que va être le Grand Paris Express avec quand même 100 000 voyageurs qui vont passer par Champigny, alors on a moins de mal à faire venir des petits commerces. On a là récemment une auberge qui a ouvert il y a 6 mois. Ils font des chiffres d'affaires excellents. Mmh. Il y a une très belle fréquentation. On a réussi à faire venir un caviste. Là, on a un nouveau boulanger qui vient de se positionner, un traiteur italien. J'ai même, aujourd'hui même, ce matin, sur le marché, un traiteur portugais qui vient me voir, qui me dit « je voudrais m'installer chez vous ». Donc voilà, on a de plus en plus de gens qui veulent s'installer parce qu'il y a une dynamique qui est enclenchée. On a créé un parking souterrain, donc maintenant on peut trouver de la place pour se garer, parce que ça c'est aussi un vrai point.
Vous parlez de... C'est qu'aujourd'hui ça s'appelle Place du Marché ?
ce qui est place du marché, sous le magasin Monoprix, effectivement, vous avez un parking public de 168 places qui permet de pouvoir stationner et de pouvoir ensuite aller commercer.
Payant.
Et Monoprix offre le stationnement quand vous venez acheter chez Monoprix. Donc voilà, on a besoin d'avancer parce que le Grand Paris va arriver et donc on a nécessité de structurer l'espace. Quand on va avoir 100 000 voyageurs, il faut savoir quand même que les gares du Grand Paris, il n'y a pas de parking qui sont prévus. Donc on va avoir un flux très important. Donc il faut l'organiser pour les piétons. Et ça, c'est très important d'avoir des démarches pour les piétons, parce que beaucoup de gens ont nécessité de se déplacer à pied, en vélo, et puis aussi en bus. Et l'avantage du Grand Paris Express, c'est qu'on va avoir une refonte des lignes de bus qui vont nous permettre d'accéder facilement au centre-ville et puis dans tous les quartiers où on est en train de développer du commerce. Il n'y a pas un quartier où on n'a pas eu d'investissement au cours de ce mandat. Pas un.
À propos de bus, quelle est l'entreprise qui gère les bus? C'est parce que RATP, Madame Pécresse, est en train de privatiser par l'eau.
En tout cas, à Champigny. En tout cas, à Champigny.
C'est toujours
nous,
c'est RATP.
Donc, il n'y a pas de difficulté particulière à Champigny.
Non, ça c'est très important. Par rapport aux jeunesses, parce que moi, entre-temps, vous proposez aussi une nouvelle maison pour tous pour le quartier des quatre cités. Parce que bon, il y a les quatre cités, il y a Mordac, Bois-l'Abbé, et je voulais pas citer Jardin, par exemple, bon. Tout près de la République et tout ça. Bon, qu'est-ce qui se passe au niveau du quartier quatre cités parce qu'il était un petit peu isolé.
Alors, en fait, on a cinq quartiers en politique de la ville, dont trois extrêmement importants en termes de nombre d'habitants. Il y a le Bois-l'Abbé, effectivement, il y a les Mordac et les quatre cités. C'était un peu le quartier un peu oublié de ce point de vue-là. Donc, bon, pour autant, ils ont un avantage, c'est qu'ils ont une gare avec la gare des Boulereaux. Mais les quatre cités en question, donc Cité Jardin, Cité Blanche, Cité Rouge et les Boulereaux, forment quand même un ensemble d'habitants aussi important que le Bois-l'Abbé. Et il n'y avait pas de maison pour tous. Et c'est très important pour travailler notamment sur les questions de parentalité. Dans ce quartier-là, on a pratiquement un quart des familles qui sont des familles monoparentales. Voilà. Donc il y a besoin de les accompagner. Donc là, on a un projet, effectivement, pour faire une maison pour tous, très orientée sur les questions de famille, et puis de faire des investissements. Dans ce quartier-là, on a ouvert il y a peu de temps un nouveau City-Stade qui était un vrai besoin dans ce quartier. Il n'y avait pas d'équipement de proximité. Il avait été supprimé il y a quelques années. C'est un peu comme la piscine. Certains disent, oui, on a eu deux piscines à Champigny. Oui, mais enfin, ça fait 15 ans qu'on a fermé la deuxième piscine. Donc là, nous, on a prévu de refaire cette piscine-là parce qu'il y a un besoin par rapport au nombre d'enfants. On a des obligations pour faire le savoir nager pour les petits, mais tous les ans, l'été, les gens déplorent qu'il y a des enfants qui se noient. Mais si on leur donne pas les possibilités de nager, et pour ça, on a besoin d'une deuxième piscine. Et donc, ça fait partie des propositions sur le deuxième mandat de réouvrir la piscine dans le quartier du projet de Lanrue, au Bois-l'Abbé.
Alors, famille monoparentale. En règle générale, les femmes commencent à travailler très tôt. Elles prennent le premier train. Elles arrivent tard le soir, parce que bon, je parle pas des caissières, c'est exactement le même problème. Alors, les jeunes, qu'est-ce qu'on fait pour les occuper? Parce qu'une fois qu'ils sortent de l'école, et ça c'est très important, jusqu'à quel point les maisons de quartier peuvent justement recevoir ces jeunes, faire des formations, faire des jeux, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez prévu par rapport justement aux enfants des familles monoparentales qui ont des problèmes énormes?
Ben on a refait les structures. Pareil, là, je suis obligé de rappeler l'histoire, parce qu'il y a un moment, il faut quand même dire les choses. Les structures jeunesse, on en avait quelques-unes dans la ville, mais elles étaient dans un état délabré, avec des jeunes qui, du coup, n'y venaient plus beaucoup. Donc là, on a refait, on a fait des assises de la jeunesse, et au terme des assises de la jeunesse, eh bien, on a refait l'intégralité des structures. C'était une demande très forte des jeunes, avec des chantiers participatifs. Donc, ils ont pu eux-mêmes mettre un peu la main à la pâte, et du coup, ils prennent soin de leur structure. Donc, ils ont des possibilités. On fait beaucoup aussi pour le soutien scolaire. Et là, l'objectif, c'est d'aller encore plus loin sur ces questions-là, avec du mentorat aussi, pour accompagner ces jeunes dans les quartiers, et j'irai dans tous les quartiers.
Alors, on parle des jeunes, mais bon, apparemment, la France est vieillie. Alors, ça serait plein de problèmes, hein, parce qu'il faut avoir une assistante, quelqu'un qui aide ces personnes-là, quitte à faire en sorte qu'ils restent chez eux, parce que ça c'est très important. Quelle structure, comment vous pensez pouvoir le faire? Parce que finalement, bon, les municipalités sont obligées d'assumer un certain nombre de choses qu'en principe c'est à l'État de le faire.
Alors, on a déjà un EHPAD municipal, on a une résidence autonomie, Donc on accompagne effectivement nos seniors, et l'objectif est de renforcer cela. Alors, on l'a déjà fait en partie aussi, pas simplement avec les deux structures existantes qu'on a fait évoluer, mais aussi avec du portage alimentaire, avec une veille sociale qui n'existait pas jusqu'à présent, pour accompagner tous nos seniors, pour faire en sorte qu'ils aient une visite au quotidien, régulière, et savoir si tout va bien. Et puis, tout un tas d'activités qui n'existaient pas. On n'avait pas de service senior à la ville de Champigny. On en a un aujourd'hui, qui travaille, qui fait beaucoup d'opérations pour lutter contre l'isolement des seniors. Et puis, on a comme projet, effectivement, de continuer à construire de nouveaux logements. On parlait du logement juste avant. Notamment des résidences seniors. Parce qu'on sent bien qu'on a une partie de la population aujourd'hui qui trouve pas les solutions en matière de logement quand on est isolé, quand on avance dans l'âge. Et ça, on se doit absolument de l'accompagner.
Alors, on arrive à la fin, Laurent Jeanne. Alors, Champigny, une ville champion, une ville même de champion olympique, s'il vous plaît. Et une certaine madame Christine Aron, qui est adjointe au sport athlète. Bon, je ne vais pas faire son CV, il serait énorme. Donc, le tissu, et ça se fait en lien entre le sport, la jeunesse et les associations. Et un lien social, tout ça.
Ben, c'est ce qu'on a développé justement avec Christine Aron. Christine Aron, vous voyez, elle est intéressante, pas simplement par son parcours. Elle nous a rejoint en 2020. Quand je l'ai rencontrée, je lui ai dit « qu'est-ce qui t'intéresserait de faire si tu t'engageais ?» Elle n'est pas membre d'un parti politique, mais si tu t'engageais pour le sport. Elle m'a dit « ben moi, ce qui m'intéresserait, c'est de développer le sport santé et de développer le sport à l'école. » C'est ce qu'on a fait avec des éducateurs sportifs qui apprennent à nos enfants à savoir nager, patiner, rouler en vélo et faire aussi la natation, bien évidemment, parce que ça, c'est un élément extrêmement important. Et donc, et naviguer aussi sur la Marne, puisqu'on peut naviguer sur la Marne à Champigny. Donc, on leur apprend tout ça, et c'est vrai qu'on a beaucoup renforcé le sport à l'école. C'est pour nous extrêmement important que les enfants puissent accéder aux activités sportives et aussi culturelles. On leur a fait aussi beaucoup d'initiations à la culture, y compris à la musique. Je crois que c'est important de donner aux jeunes, et en particulier aux plus jeunes, le goût du sport, de l'activité sportive et de la culture.
Monsieur le maire, les guinguettes sont sauvegardées, j'espère.
Les
guinguettes.
Ah, les guinguettes. Ah ben on a même plus que préservé la guinguette, parce qu'on a une guinguette qui s'appelle la guinguette du Martin Pêcheur, et on a acheté l'île au cours de ce mandat pour préserver de tout projet où on n'aurait pas maîtrisé l'occupant. Et donc là aussi, d'ailleurs, on a un projet par rapport au commerce d'avoir une foncière qui nous permet de mieux maîtriser les commerces. Donc c'est un peu cette approche-là.
Laurent Jeanne, je rappelle, mouvement libre, mouvement de Madame Valérie Pécresse, et vous avez le soutien, bon, assez large, droite et centre, une minute, une bonne raison de voter Laurent Jeanne le 15.
Bah, je crois que le 15 mars, les habitants de Champigny ont un véritable choix d'avenir à faire entre soit une solution qui est de revenir en arrière en pire, puisque les communistes ont annoncé déjà avec les socialistes s'associer à la France insoumise avec un projet que je ne partage pas.
Alors, pour le moment, on n'est même pas encore arrivé au premier tour.
Oui, mais c'est ce qui a été déjà annoncé par le candidat communiste, qu'il était prêt à faire alliance avec la France insoumise.
Une minute, s'il vous plaît.
Voilà. Et donc, moi, ce que je veux, c'est continuer à dynamiser la commune. Et on va avoir l'arrivée du Grand Paris Express. Et donc, c'est ramener du commerce, ramener de l'activité, de l'emploi, et faire en sorte que Champigny, on s'y sente bien, on s'y sentent encore mieux en 2026.
D'ailleurs, vous voyez qu'on laisse un petit peu Paris de côté. Merci, monsieur Laurent Jeanne. Et maintenant, bon, on va faire une petite pause musicale. On va se détendre un petit peu, quitte à faire. Tranquillement.
reprend le direct et cette fois-ci on laisse Champigny, on laisse le département 94 et on va partir dans le 95 à Montigny-lès-Cormeil. Madame Manuela Merle, bonjour.
Bonjour Arthur.
Merci d'être en direct avec nous. La dernière fois vous étiez venu ici dans les studios. Madame Manuela Merle, vous êtes conseillère municipale et départementale et tout simplement vous êtes tête de la liste Montigny pour tous. Cette fois-ci, cette année, vous avez franchi le pas.
Oui. Oui, c'était nécessaire et légitime.
Oui, pourquoi c'était nécessaire?
Nécessaire par rapport aux différents points qu'on a actuellement sur notre ville, avec la construction d'un centre-ville, avec une sécurité qui devient insuffisante, une dette qui a augmenté énormément sur les deux dernières années. Mmh. Donc il était nécessaire de se mobiliser et de pouvoir donner un nouveau souffle à Montigny. Mmh.
Alors j'ai regardé, parce que vous publiez pas mal de choses sur Facebook, et je pense qu'il y a un thème qu'à vous ça tient au cœur, et d'ailleurs quand vous êtes venu ici, vous avez déjà insisté là-dessus, qui est question de sécurité. Alors qu'est-ce qui se passe exactement à Montigny-lès-Cormeil, que pour vous, c'est le problème principal. Bon, mais on va parler des autres. C'est pas le seul. C'est un peu réducteur, ce que je suis en train de dire. Mais pour vous, il y a vraiment un problème qu'il faut régler. Déjà, quel constat vous faites?
Écoutez, tout à fait. Effectivement, aujourd'hui, c'est une de nos priorités, puisque le constat est qu'on a des chiffres qui alertent un peu, des chiffres qui datent de 2024. Et qui viennent du commissariat de notre circonscription, qui est le commissariat d'Hermont. Nous avons eu quand même 1203 actes de délinquance sur notre ville en une année, ce qui est pas mal, ce qui représente quand même 3 actes par jour. Ensuite, à côté, nous avons aujourd'hui un constat de 4 policiers municipaux pour une ville de 22 500 habitants.
Et ça continue à augmenter le nombre de... D'habitants,
en effet, puisque nous avons des nouveaux quartiers qui sont terminés et dont les nouveaux habitants arrivent petit à petit. Donc 4 policiers pour une ville de 22 500 habitants, c'est beaucoup, beaucoup, c'est vraiment très peu, même trop peu, sachant que la règle est de 1 policier pour 1000 habitants. Donc en effet, on devrait avoir dans l'idéal 22 policiers municipaux. Alors entre 22 et 4, la marge est énorme.
En même temps, il faut dire qu'il n'y a pas de police nationale, il y a une permanence quand elle est ouverte, dans le centre, à côté du centre Picasso, ils sont là sans être là, la police nationale.
Donc. Oui, c'est plutôt une police nationale qui est plutôt dans l'administratif, voilà, et à des horaires qui ne conviennent pas à tout le monde, puisque sur le terrain, les gens nous disent subir des vols de voitures ou des cambriolages, mais ils sont découragés à aller déposer plainte, puisque ce n'est pas aux heures adéquates, et puis aller à Hermont, pour nous, c'est un peu compliqué.
Hermont ou Herblay?
Non, c'est Hermont. Nous, on dépend de Hermont. Hermont.
Oui, alors, Madame Mello, concrètement, donc, pour résoudre ce problème, vous voulez augmenter le nombre de policiers municipaux, c'est ça, entre autres?
Oui, entre autres, c'est de tripler les effectifs de la police municipale. Mmh. Également, avoir une présence policière 24-24, puisque notre ville en a besoin. Donc, création d'une brigade de nuit et avoir un lien avec l'agglomération, puisqu'aujourd'hui, nous avons une police intercommunale, mais qui tourne sur 32 villes. Donc, forcément, elle ne peut pas être partout. Et donc, le but, c'est de renforcer aussi, avec l'agglomération, une police qui puisse une police municipale qui puisse être présente sur le terrain à partir de la nuit et à partir de 18h, puisque la sécurité ne s'arrête pas à 18h, malheureusement.
Et en même temps, c'est installer des caméras?
Oui, c'est d'étendre la vidéoprotection à tous les quartiers, puisque quand même on s'est rendu compte que tous les quartiers en ont besoin. D'ailleurs, je pour faire beaucoup de porte-à-porte et d'être sur le terrain depuis très longtemps, je m'aperçois que toutes les propriétaires s'installent de caméras. Donc on sent quand même qu'il y a une inquiétude, qu'il y a un besoin de prévention et de sécurité sur notre ville, et c'est important. On va également créer un réseau de médiateurs de quartier, ce qui nous permettra d'avoir des informations qui remontent plus facilement voilà, sur nos services. Et le but, évidemment, c'est de faire la prévention et de pouvoir petit à petit, voilà, essayer de réellement mettre plus de sécurité sur notre ville, quoi.
Voilà. Avant, on les appelait les grands frères.
C'est ça. Alors, voilà, complètement.
Complètement, oui. Et avant, on avait même de la police de proximité. Tout ça, ça a été
tout à fait.
A disparu. Alors, Montigny est divisé par deux, en deux. Il y a oui. l'Union nationale qui passe au milieu. Parce qu'il y a de oui. vieux Montigny, ce que j'appelle de vieux, là où il y avait la salle de mariage, en haut, et après, bon, il y a les nouvelles installations de la mairie, en bas, à côté d'un grand centre commercial, oui. Alors, et là, par rapport au centre-ville, vous dites, stop au flou, place au concret. Concrètement, qu'est-ce qui se passe au centre-ville de Montigny-les-Corbeils?
Alors, concrètement, le constat est fait que, voilà, donc c'est un projet qui date depuis quelques années, hein, et on constate qu'il y a un flou, puisqu'il y a aussi un manque de dynamisme. On devait avoir une école qui devait être sortie de terre pour septembre 2025. Elle n'a toujours pas été mise en place, ni même commencé à construire. Donc, en effet, le souci, c'est que, comme tous les centres-villes nationaux, on avait, il y avait un projet qui était un projet d'aménagement par la société Frey. La société Frey, malheureusement, elle a abandonné ce projet sur Montigny-les-Cormeilles. Et pour le coup, là, ça a freiné un peu tout le. Il faut retrouver un autre aménageur. Il faut voilà. Donc du coup là, c'est un flou complet. On ne sait pas trop si ça va nous durer pendant 15 ou 20 ans. On ne sait pas à quel moment on aura cette école, alors que les nouveaux habitants arrivent, hein, puisqu'il y a quand même la première phase du projet qui a été réalisée, hein, au niveau des logements à côté du cinéma Mégarama. Et voilà, l'inquiétude est que demain on va se retrouver avec des écoles surchargées et cette école qui ne sort pas de terre. Je tiens aussi à préciser que cette école, la municipalité a fait le choix de demander un crédit de 16 millions d'euros pour pouvoir la financer, un crédit sur 42 ans à taux variable, qui est énorme, voilà, qui est quand même n'importe quelle décision. Voilà, tout ça fait qu'aujourd'hui, ce centre-ville, nous on veut remettre le projet à plat. Donc on veut surtout moins de béton subi et plus de place à la nature, un Montigny qui doit respirer puisque nous sommes de plus en plus urbanisés et on doit vraiment rester sur une ville qui puisse être à taille humaine et respirer puisque le logement est important et on doit évidemment, on sait très bien que la région parisienne en manque et c'est pas le souci, on doit pouvoir équilibrer notre demande de logement, mais en même temps on doit aussi avoir les services publics en face. Voilà. Ce qui m'inquiète, c'est justement tous ces services publics. Et nous, donc, on propose de remettre à plat ce projet et de faire la création de plusieurs services publics, comme évidemment l'école, hein, puisqu'elle a déjà été actée, des commerces de proximité, mais utiles, un gymnase, hein, puisque je rappelle que nous sommes très dépourvus en tout ce qui est offre sportive. Un centre culturel qui a un besoin réellement, ne serait-ce que pour nos associations, pour des créneaux, puisqu'aujourd'hui on se rend compte au niveau tissu associatif qu'elles n'ont pas assez de salles sur Montigny, donc les gens sont obligés d'aller sur les villes voisines, et c'est dommage qu'on ne puisse pas garder nos habitants sur nos structures et qu'ils puissent bénéficier de leur ville et profiter du service public de leur ville.
Heureusement que le cinéma il marche bien. Bon.
Oui.
Voilà. Non, mais il y a des choses quand même. Alors.
Oui, bien sûr.
Oui. Alors, il y a tout à l'heure vous avez parlé du commerce. Bon, vous savez très bien qu'un centre commercial, je ne vais pas donner le nom de l'enseigne, est toujours été capable d'une certaine heure. Il n'y a plus rien, plus de boulangerie, il n'y a plus rien. Il n'y a que le supermarché, c'est tout. Alors, comment faire en sorte que des petits commerçants, je pense au commerce de bouche et pas seulement, viennent se réinstaller, parce que tout ça, ça existait il y a une bonne vingtaine d'années. Comment faire, sachant que finalement, c'est-à-dire les pouvoirs de la mairie sont limités, les finances aussi, c'est limité, comment faire?
Oui, en effet, on a besoin de commerce de bouche pour toute la population, hein. et à tous les goûts. Et du coup, le but aussi, c'est de travailler sur du partenariat. C'est pour moi, c'est le partenariat avec justement les promoteurs qui sont sur ce projet de centre-ville pour pouvoir devenir propriétaire des lieux et pouvoir aussi avoir le choix du commerce qui pourra être proche, voilà, des habitants et les besoins des habitants. Vous voyez, par exemple, vous parliez tout à l'heure de notre ville est divisée en deux. En effet, nous avons le quartier que moi j'appelle le quartier du village, puisque nous l'appelons comme ça, avec l'église qui est au point central. Ce quartier-là, malheureusement, il y a quelques mois en arrière, il y avait une boulangerie, elle vient de fermer. Donc aujourd'hui, on a une petite supérette qui est là, qui fait un dépôt de pain, mais c'est très compliqué puisqu'on a quand même toute une population de seniors et cette boulangerie fermée, elle a fermé du jour au lendemain, sans réellement d'informations de la municipalité en place. Hein, c'est même nous, en conseil municipal, qu'on leur a demandé, mais voilà, informer la population quand même, essayer de trouver des alternatives. Voilà, nous avons également des nouveaux logements qui arrivent sur le village. Un nouveau projet de logement et voilà, et donc l'arrivée de nouveaux habitants, on a besoin de faire un service public qui puisse satisfaire cette offre. Donc pour ce quartier, c'est vrai qu'on voudrait l'installation de proximité, toujours avec l'optique de devenir propriétaire des murs pour pouvoir mettre une boulangerie, une boucherie, un coiffeur, une offre de commerce pour nos habitants du village. Ouais, on voudrait également. Oui. Juste pour finir, on voudrait également installer quelque chose de très important parce qu'on l'avait et qui a disparu. C'est un distributeur automatique de billets. Il faut savoir qu'on avait un petit point poste.
Qui a
disparu parce que vous savez très bien que la Poste a réduit ses effectifs et ses structures. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un point poste géré par la municipalité qui n'est pas forcément ouverte aux heures qui convient, parfois les rester pendant des mois complètement fermés puisque nous n'avions plus d'agent municipal pour pouvoir l'ouvrir. Enfin bon, tout ça fait qu'aujourd'hui, ce service ne fonctionne pas. Et le but, c'est vraiment de repenser l'offre postale, d'avoir des permanences hebdomadaires avec des démarches administratives et la distribuer, donc installer un distributeur automatique de billets qui existe déjà dans d'autres villes, hein, parce que bon, voilà, on est tous bien d'accord qu'aujourd'hui même les banques disparaissent de nos surfaces et que du coup aujourd'hui c'est un peu compliqué. Donc ce distributeur automatique aujourd'hui, quand on invite le village, hein, et moi-même je peux le dire, hein, et j'en parle au porte à porte, et les gens sont obligés d'aller dans les villes voisines ou alors descendre en bas avec des difficultés de circulation, de pouvoir se garer s'il faut. Avec une banque qui est à la gare et une banque qui est au parvis Picasso, avec parfois des problèmes aussi de stationnement et un accès qui n'est pas facile.
Voilà, bon, sans oublier que certains nombre de services publics ont disparu. Je me souviens encore, à la gare, il y avait un guichet de la sécurité sociale, il y avait la CAF aussi, bon, etc., etc. Et là, les maires, tout ce qu'ils peuvent dire, c'est protester, exiger, mais là, je pense que...
Voilà. Effectivement, vous avez raison, hein, mais ça, c'est pas les villes, hein, on paye tous les conséquences, puisque c'est important d'avoir ces services de solidarité pour nos habitants, hein, d'autant plus dans la ville de Montigny-lès-Cormeilles, on a besoin. Donc moi, dans notre projet, on propose de créer une maison des solidarités, justement, en partenariat avec le département, puisque je suis bien engagé en tant que conseillère départementale. Voilà, pour regrouper justement les services sociaux, hein, du territoire et accompagner les plus fragiles. Donc cette maison des solidarités avait déjà été proposée dans le mandat actuel. Il nous fallait juste un terrain, mais malheureusement on n'a pas pu nous indiquer un terrain accessible à la ville pour pouvoir construire cette maison des solidarités. Je le regrette beaucoup à cette maison des solidarités pour notre ville et parce que le département est un partenaire important et que du coup on doit vraiment, pour la ville de Montigny, avoir ses services chez nous.
Oui, sans oublier le troisième âge, que c'est très important. Madame Romero, je rappelle, tête de la liste Montigny pour tous, une minute, une bonne raison pour voter pour vous le 15.
Écoutez, le 15 mars, c'est simple. Moi, je propose un nouveau souffle pour notre ville. Je pense qu'on a besoin d'un autre regard et avec un choix clair, une équipe proche de tout le monde, avec une méthode sérieuse. Comme je disais tout à l'heure, nous avons besoin de faire un audit financier et de dire la vérité à tous les habitants, puisque c'est quand même l'argent public qu'on dépense. Donc voilà, et des résultats dès le premier mandat. Et c'est vraiment notre livre moteur, c'est vraiment un nouveau souffle pour Montigny. Voilà.
Merci, Madame Manon.
Merci, Arthur.
Merci. Et comme dirait l'autre, bon, on va voir. Et on va essayer également d'interviewer Monsieur le maire, qui est un nouveau candidat. Merci bien.
Merci bien. Au revoir.
E nós estamos a chegar aos poucos e poucos no final desta emissão do domingo, dia 22. E no dia 24, ou seja, da próxima terça-feira, às 20 horas, New Morning, 7 Rue des Petites Écuries, em Paris 10. Quem é que vai lá estar? Gisela João. Era mesmo a Gisela João, é um remix, bom, é por aí a falar. Pois é, o fado permite-se tudo e mais uma coisa. A Gisela João, que vai estar em concerto, relembro, na próxima terça-feira, dia 24 de fevereiro, às 20 horas, no New Morning, 7 Rue des Petites Écuries, em Paris 10. E para aqueles que querem ir ao cinema, e temos que esperar por quarta-feira, dia 25, vai ser estreado aqui em França o filme Justa, de Teresa Vilaverde. É um filme documentário, na medida em que tem a ver com aquilo, a tragédia que houve em Portugal em 2017, uma região que foi praticamente destruída por gigantescos incêndios que levaram
florestas inteiras, mas igualmente vidas. Vidas essas que, bom, desapareceram por causa da incuria de muita, muita gente, mas enfim. Obrigado, Manuel Alexandre, e esperamos regressar aqui na próxima semana. Parto sem dor.
E agora eu vou-me embora, embora a dor não queira já ir embora. Agora eu vou-me embora e parto sem dor. E parto dentro de momentos, apesar de haver momentos em que dentro a dor não parte sem dor. E agora eu vou-me embora, embora a dor não queira já ir embora. Agora eu vou-me embora e parto sem dor. E parto dentro de momentos, apesar de haver momentos em que dentro a dor não parte sem dor. E agora eu vou-me embora, embora a dor não queira já ir embora. Agora eu vou-me embora e parto sem dor. E parto dentro de momentos.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.